RFI, 8h à Paris, 6h en temps universel. Bonjour Gaëtan Plenel.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
On se dirige vers un second tour en Iran.
Les résultats partiels de la présidentielle sont tombés. Un réformateur et un ultra-conservateur sont en tête. On est à Téhéran dès le début de ce journal. Actualité électorale très riche, hein, puisque les Mauritaniens aussi votent pour élire leur président aujourd'hui. Tandis que les Français, eux, élisent leur député. Premier tour des législatives demain, même si ça commence en réalité dès ce matin dans certains territoires d'outre-mer. Et puis les Américains, eux, ont un petit peu plus de temps. La présidentielle, c'est en novembre. Joe Biden y participera. Lui s'en sent capable malgré son grand âge, d'autres n'ont pas le même avis, les appels au désistement se multiplient. Dans ce journal également, reportage à suivre à Pokrovsk, un district qui jouxte la partie occupée de la région ukrainienne de Donetsk dans l'est du pays. Certains habitants n'ont pas voulu partir malgré les bombardements russes incessants. On sera aussi en Irlande qui organise sa Pride, sa marche des fiertés LGBT malgré une recrudescence des actes homophobes. Et puis Italie, Suisse et Allemagne, Danemark, voilà le programme du jour à l'Euro de football, début des 8e de finale. Final, on en parle dans le journal des sports.
Qui pour succéder à Ebrahim Raisi en Iran?
Un mois après la mort du président dans un accident d'hélicoptère, le premier tour de la présidentielle avait lieu hier dans le pays pour lui trouver un successeur. Vote que vous avez suivi pour nous, Siavosh Ghazi, correspondant de RFI à Téhéran. Siavosh, des résultats partiels, je le disais, ont été annoncés. Ils concernent les bulletins dépouillés dans 60% des bureaux de vote. C'est loin d'être définitif, donc, mais ça donne quand même des premières tendances. Siavosh, qu'est-ce qui se dégage?
Absolument. Les premières tendances, il y a d'abord un premier enseignement, donc une participation plutôt faible, autour de 40%, donc 10% de moins que les élections présidentielles d'il y a 3 ans, lorsque Ebrahim Raisi avait été élu. Donc un pourcentage qui était déjà très faible par rapport aux précédentes présidentielles des années d'avant. Donc une participation encore plus faible, cette fois-ci malgré donc les demandes et les appels qui ont été lancés par le pouvoir, mais aussi la mobilisation des ténors réformateurs et modérés, pour appeler l'électorat modéré et réformateur à se mobiliser en faveur de Massoud Pezeshkian, le candidat réformateur. Donc c'est un échec pour les réformateurs. En face, il y a donc Massoud Pezeshkian qui n'obtient que 42% des bulletins de vote, donc parmi ces 14 millions de bulletins dépouillés. En face, le candidat ultra-conservateur Saïd Jalili obtient environ 40% des voix, donc sur les 14 millions de bulletins dépouillés. Le candidat conservateur Mohamed Bayab Ghalibaf, l'actuel président du Parlement, obtient plus de 13%. Donc à eux deux, ils ont plus de 50%, en fait 53%. Et donc la tâche sera difficile pour le réformateur au second tour. Et selon tous les analystes et les médias iraniens, on s'orienterait vers un second tour, à moins qu'il y ait une nouvelle surprise d'ici 3 ou 4 heures, lorsqu'on aura les résultats définitifs, notamment des grandes villes et aussi à Téhéran. Donc on pourra à ce moment-là voir s'il y aura un second tour ou bien si les choses sont jouées dès le premier tour.
Eh bien merci, on suivra ça avec vous. Siavosh Ghazi, correspondant de RFI à Téhéran.
Et on en parle juste après le journal avec notre invité Thierry Coville. Pendant ce temps en France, après 3 semaines de campagne express, silence.
Électoral en l'occurrence, plus de distribution de tracts, de réunions publiques, de sondages, plus d'interviews politiques non plus. Depuis minuit, c'est la règle. Elle s'applique même depuis hier dans certains territoires français. Ceux qui votent dès aujourd'hui pour ce premier tour des législatives, Saint-Pierre-et-Miquelon par exemple, qui donnera le coup d'envoi du vote aux urnes dans quelques heures. Même chose en Guadeloupe, en Guyane ou encore en Polynésie française.
Mais pour la majorité des électeurs, ceux qui résident en métropole, c'est bien demain, dimanche, qu'ils seront appelés à l'isoloir.
Sous les yeux des assesseurs, qui ne sont pas bien nombreux pour ce scrutin, qui, on le rappelle, n'était pas prévu au calendrier électoral cette année, mais qui a été convoqué au début du mois après les européennes. Et il tombe en pleine période de départ en vacances, alors forcément pas facile de trouver des volontaires pour siéger aux côtés des présidents de bureaux de vote et assurer la régularité du vote. C'est le cas notamment à la mairie de Bois-Colombes en région parisienne. Reportage de Camille Ursy.
À la veille des élections, la mairie de Bois-Colombes bouillonne. Pour la directrice de cabinet Karine Fischer, ces 3 dernières semaines ont été une course contre la montre.
On a tout de suite recontacté en fait les assesseurs qui avaient assuré la tenue des bureaux pour les européennes. On a mobilisé toutes les personnes qui traditionnellement répondent présentes.
Des renforts obligatoires pour la bonne tenue de ces élections inattendues, comme le souligne l'adjoint au maire Gilles Chomerliac.
Et soir des européennes, on a commencé à se regarder. Oh là là, le 30 juin Et le 7 juillet, période de vacances, trouver des assesseurs, ça va être rock'n'roll.
Sur le site internet de la municipalité, un appel à assesseurs volontaires est publié depuis plusieurs jours. Et pour dimanche, tout semble prêt.
Là, on arrive à avoir deux, voire trois assesseurs titulaires et avoir même des assesseurs suppléants. Ça, c'est pour le 30 juin. Après, le 7 juillet, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, forcément, le 7 juillet, il y a aussi des gens qui seront partis en vacances.
La liste définitive des assesseurs est validée le jeudi précédent les élections. Plus que quelques jours alors pour compléter celle du 7 juillet.
Un reportage de Camille Urcy. Les Mauritaniens, eux, ont le choix entre 7 bulletins ce samedi. 7 noms pour devenir président ou pour le rester d'ailleurs, puisque Mohamed Oulcherel Razouani est candidat à sa propre succession. Ouverture des bureaux de vote dans moins d'une heure.
Aux États-Unis, le président Joe Biden semblait, lui, quasi assuré d'être le candidat démocrate à la présidentielle de novembre. Ça ne semble plus aussi sûr que ça.
À la faute à un débat raté face à Donald Trump, l'actuel chef de l'État, qui faisait déjà l'objet de nombreuses critiques et inquiétudes concernant son âge, 81 ans, n'a pas franchement rassuré, c'est même plutôt le contraire. Lui qui est apparu confus lors de ce débat, parfois difficilement intelligible. Alors les langues se délient, y compris dans son propre camp, pour l'appeler à renoncer à la course à la Maison-Blanche. Appel lancé aussi par le New York Times, pourtant réputé plutôt proche des démocrates. Une tribune publiée dans le prestigieux quotidien l'affirme, Joe Biden doit s'écarter s'il veut servir son pays. Correspondance à New York de Lubna Anaki.
Les électeurs ne peuvent pas ignorer l'évidence, Joe Biden n'est plus l'homme qu'il était il y a 4 ans. Dans son éditorial, le message du New York Times au président américain et au parti démocrate ne laisse aucune place au doute. Le camp présidentiel vient de perdre un soutien de taille, même si le journal assure que si au final le choix est entre Joe Biden et Donald Trump, il soutiendra bien Joe Biden. Le quotidien salue le bilan du démocrate parlant, je cite, de président admirable, mais la performance de jeudi soir, insiste l'éditorial, ne peut être mise uniquement sur le compte d'un mauvais soir ou d'un rhume. La vérité, peut-on lire, est que Joe Biden a échoué à son propre test. Le New York Times estime que s'il persiste, le président, je cite, « prend un risque irresponsable. Rien ne justifie de risquer la stabilité du pays en forçant les électeurs à choisir entre les déficiences de M. Trump et celles de M. Biden. » Et le quotidien de conclure, « si le danger est aussi grand que Joe Biden le répète, et c'est bien le cas, alors son dévouement envers le pays ne lui laisse qu'un seul choix, celui de se retirer. » L'appel du New York Times s'ajoute à ceux déjà exprimés jeudi soir par les commentateurs et journalistes de plusieurs médias, y compris les chaînes CNN et CNBC, d'habitude plutôt tendres avec les démocrates. Lubna Anaki, New York, RFI.
Et depuis le débat, la plateforme de Parieurs Markets estime que Joe Biden n'a plus que 20% de chance de l'emporter contre 35% avant cette prestation. Pourtant, malgré les signaux au rouge qui s'accumulent, pas question d'abandonner. Oui, il part les débats moins aisés manque auparavant, Joe Biden le reconnaît, mais il exclut de ne pas concourir à l'élection car il y croit, je peux faire ce boulot, a-t-il dit. C'était hier lors d'un meeting en Caroline du Nord, il a reçu le soutien de l'un de ses prédécesseurs, Barack Obama. Et ce fut l'un des thèmes abordés lors de ce fameux débat télévisé, l'avortement dont le droit fédéral n'est plus assuré depuis la fin de l'arrêt Roe versus Wade il y a 2 ans maintenant. Depuis, c'est à chaque état de légiférer s'il le souhaite sur la question. Eh bien, c'est ce qu'a fait l'Iowa avec une loi interdisant les interruptions volontaires de grossesse au-delà de 6 semaines, c'est-à-dire un stade où de nombreuses mères ne savent pas encore forcément qu'elles attendent un enfant. Loi autorisée hier par la Cour suprême de cet État.
Les États-Unis que la Russie menace d'une confrontation directe en Ukraine.
Le ton monte à Moscou qui n'apprécie pas le soutien militaire américain à Kiev et qui dénonce notamment son implication présumée après une frappe dimanche dernier en Crimée annexée, commise selon le Kremlin par l'Ukraine, mais avec des missiles tactiques américains, attaque qui a fait 4 morts. La Russie a promis des représailles et le président Vladimir Poutine a estimé hier que son pays devrait commencer à produire lui-même des missiles de courte et moyenne portée, ce qui lui est pourtant interdit en vertu d'un traité signé avec les États-Unis. En attendant, les forces armées ukrainiennes disent avoir abattu, elles, 10 drones lancés cette nuit par la Russie au-dessus de son territoire. Lundi déjà, une frappe de missile avait touché une zone résidentielle de Pokrovsk, où s'est rendu notre envoyé spécial Emmanuel Chaz. Là-bas, comme dans le reste de la région de Donetsk d'ailleurs, les bombardements font partie du quotidien de milliers d'Ukrainiens qui sont restés sur place. Reportage.
C'est l'un des axes où les combats sont les plus actifs en Ukraine, celui de Pokrovsk, un district jouxtant la partie occupée de la région de Donetsk dans l'est du pays. Pour les habitants des villes et villages de la région qui ont décidé de ne pas évacuer, le quotidien est rythmé par des alertes aériennes et des bombardements et le moral est éprouvé, comme le confie Tetiana, une économiste dans un hôpital de la ville de Pokrovsk.
Bien sûr, en vivant ici à Pokrovsk, nous sommes très inquiets et nous avons peur. Notre petit-fils de 6 ans est traumatisé par les bombardements, mais nous restons. Notre travail est ici et nous n'irons nulle part.
À Pokrovsk, on continue à vivre, mais sans aucun sentiment de sûreté. La forte présence militaire ainsi que les bombardements rappellent que la ligne de front n'est qu'à environ 25 km. Artem, lui, a survécu au missile Iskander russe lancé sur son quartier le 24 juin. 5 personnes sont mortes et plus de 40 ont été blessées. La maison d'Artem, comme des dizaines d'autres, a été lourdement endommagée.
C'est difficile parce qu'on n'a plus de maison, plus de fenêtres, plus de portes. Il faut tout reconstruire. C'est très dur.
Alors que les Russes lancent des dizaines d'assauts contre Pokrovsk dans le but d'occuper l'ensemble de la région de Donetsk, les habitants éprouvés tentent de continuer à vivre avec la menace bien réelle d'une occupation russe si les lignes de défense ukrainiennes venaient à flancher et le risque constant des bombardements. Emmanuel Chaz, Pokrovsk, RFI.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui annoncé hier la libération de 10 civils, dont 2 prêtres faits prisonniers en Crimée et en Biélorussie. Ils sont rentrés en Ukraine grâce, c'est ce que dit le chef de l'État ukrainien, à un accord avec Moscou et avec l'appui du Vatican.
C'était en juin 1970 à New York, la toute première Gay Pride.
À plus d'un demi-siècle plus tard, cette marche des fiertés a lieu chaque année dans de nombreux pays du monde. En Irlande, la première fois, c'était en 1974, il y a donc tout juste 50 ans, à Dublin. À l'époque, pour exiger l'abolition des lois draconiennes qui pesaient sur les personnes homosexuelles. Alors depuis, le pays a fait beaucoup de chemin. En 2015, il est même devenu le premier au monde à autoriser le mariage gay par référendum. Mais malgré cette figure de précurseuse, ces derniers mois ont été marqués par une montée inquiétante d'un discours anti-LGBT en Irlande et par une recrudescence aussi des actes homophobes. Correspondance à Dublin de Clémence Pénard.
Dernière en date, le week-end dernier seulement, 3 hommes homosexuels sont pourchassés par 6 autres armés de couteaux dans un parc de Dublin. Les hommes ont réussi à s'enfuir, mais Dieu sait ce qui se serait passé s'ils ne l'avaient pas fait, s'est alarmé un sénateur de centre droit. C'est aussi le cas très médiatisé de l'agression en pleine rue de Natasha O'Brien, attaquée par un soldat. La jeune femme lui avait demandé d'arrêter de crier des insultes homophobes à des passants. Il l'a frappée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Et hier, le comté de Wicklow, au sud de Dublin, a décidé de reporter une après-midi discothèque prévue à l'occasion de la Pride dédiée à des ados LGBTQ+, âgés de 13 à 16 ans. Suite à du harcèlement, l'un des organisateurs a reçu une lettre de menace dans laquelle il est traité de pédophile. Le comité a été contraint d'annuler l'événement. Comité qui déclare ces actions souligne la raison même pour laquelle nous avons besoin de la Pride pour continuer de s'opposer à la haine et à l'ignorance. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
Et à Paris, c'est aujourd'hui qu'a lieu cette marche des fiertés Paris, où il est 8h13.
Merci Gaëtan Plenet. RFI Matin, la suite, un nouveau point sur l'actualité africaine dans moins de 20 minutes. Et d'ici là, le point sur la présidentielle en Iran, alors que des premiers chiffres tombent et laissent entrevoir un second tour. Après un premier tour boudé comme jamais par les électeurs, le spécialiste Thierry Coville est notre invité dans quelques minutes. Mais tout de suite, les sports. Avec vous, Victor Missistrano, à la une, l'Euro de football, les choses sérieuses commencent, début des huitièmes de finale en Allemagne.
Le pays hôte qui défie ce soir à Dortmund le Danemark, c'est à 19h temps universel et ce sera à suivre en direct et en intégralité sur RFI. La Mannschaft est en confiance après un bon début de tournoi et une première place du groupe A. Côté danois, c'est tout le contraire, plusieurs inquiétudes. D'abord, quant à l'état de forme de l'homme fort de cette équipe, Christian Eriksen, un peu malade ces derniers jours. Et puis les Danois restent sur 3 matchs nuls, ils n'ont inscrit que 2 buts. Le rendement de l'attaquant de Manchester United, Rasmus Højlund, est pointé du doigt. Écoutez ce que pense le sélectionneur Kasper Hjulmand des difficultés de son attaque.
C'est vrai qu'on a eu des difficultés à marquer lors des 3 matchs, des matchs très différents les uns des autres. Notre volonté a toujours été d'avancer et de marquer. Ça apparaît clairement quand vous regardez nos matchs, c'est notre objectif. Mais ce n'est pas qu'un problème d'attaquant. Si vous concédez des buts, ce n'est pas seulement la faute des défenseurs ou du gardien, c'est la responsabilité de toute l'équipe. Donc je pense qu'on n'a pas toujours servi Rasmus Højlund comme il l'aurait fallu. Il était dans la surface, il était au bon endroit au bon moment, Alors ça ne dépend que de notre capacité à créer des occasions. On a eu la balle, on a fait beaucoup de passes dans les 30 derniers mètres, mais on doit travailler notre capacité à trouver Rasmus. Face à l'Allemagne, ce sera un match différent. Donc on verra s'il joue ou non.
Propos recueillis par Antoine Grenier, Allemagne-Danemark, à suivre en direct sur RFI, coup d'envoi 19h temps universel. Avant cela, à 16h TU, l'Italie tenante du titre joue sa place en quart de finale contre la Suisse.
L'Italie où débute aujourd'hui le Tour de France cycliste, 111e édition.
Et pour la première fois, le grand départ est donné en terre italienne, donc les coureurs s'élancent de Florence. On s'attend à un duel entre Tadej Pogacar, vainqueur en 2020 et 2021, et Jonas Vingegaard, le Danois, vainqueur des deux dernières grandes boucles, mais léger avantage au Slovène qui vient d'écraser le Tour d'Italie, tandis que Vingegaard se remet, Julien, d'une lourde chute il y a 3 mois.
En athlétisme, le meilleur chrono de l'année a été réalisé cette nuit sur 100 mètres.
9 secondes 77, le temps de Keeshan Thompson lors des sélections jamaïcaines, le coureur de 22 ans qui se replace parmi les favoris de l'épreuve reine au JO. Côté français, pour l'heure, aucun sprinter ne s'est qualifié sur la distance. Il faut avoir pour cela couru 10 secondes ou moins. Hier, ont débuté les championnats de France à Angers, dans l'ouest du pays. Le nouveau champion s'appelle Pablo Mateo. Il espérait passer sous la fameuse barre des 10 secondes, mais il doit se contenter de 10,08, son nouveau record personnel.
Ça va, on va pas se plaindre. Je suis content, 10,08. J'étais venu pour moins de 10, mais bon, c'est déjà bien. Le départ, je me cherche encore dans les blocs. Après, derrière, faut pas faire d'erreur. J'en fais quelques-unes et je savais que ça allait passer. Quand je suis en forme, c'est pas la même chose. Là, j'ai des jambes et ça sort. Je le sentais dès que je me suis réveillé. C'est la première nuit que je fais bien depuis quelques semaines. Je savais que une fois que je suis bien reposé, sur la piste, je déchire tout. Donc c'est parfait.
Pablo Mateo avec Frédéric Suto. En revanche, le Français est bien qualifié pour les JO sur 200 mètres. Je termine par du rugby. Hier avait lieu la finale du championnat de France, le top 14 à Marseille, et il n'y a pas eu de match. Toulouse a humilié Bordeaux 59-3. C'est le 23e titre, un record pour le club d'Antoine Dupont qui s'apprête à disputer, lui, les Jeux Olympiques en rugby à 7.
À ce stade, ça s'appelle une punition. Merci Victor Messistrano. 9h17 à Damas, on part en Syrie. Quel avenir pour l'armée dans le pays où elle est depuis des décennies le principal pilier du régime, soutenu par les Russes et les Iraniens. Elle a repris à partir de 2016 les 3/4 du territoire aux groupes rebelles et islamistes. Bachar al-Assad ne contrôlait plus que la capitale et les principales villes du pays depuis la révolte de 2011. Bonjour Paul Ralifé.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Correspondant des RFI dans la région, le gros de cette armée est composé de conscrits et de réservistes, parfois mobilisés depuis de longues années, et c'est un tournant. Le ministère syrien de la Défense a annoncé cette semaine une forte démobilisation.
Oui, en effet, Julien, c'est la première fois depuis le début de la guerre en 2011 qu'une telle décision est prise. Des dizaines de milliers de soldats seront graduellement démobilisés selon un calendrier qui s'achèvera fin 2025. Le 1er juillet, pendant 2 mois, ceux qui ont passé 5 années et demie sous les drapeaux pourront retourner à la vie civile. En septembre et en octobre, ce sont ceux qui auront passé 5 ans dans les rangs de l'armée qui seront démobilisés. Tous les 2 mois, de nouveaux contingents rentreront chez eux. Fin 2025, ceux qui auront servi seulement 2 années pourront réintégrer la vie civile. Les experts estiment qu'à la fin de ce processus, plus de 150 000 hommes auront été démobilisés.
Comment expliquer cette décision alors que l'armée syrienne reste engagée sur plusieurs fronts, contre les rebelles pro-turcs et les djihadistes au nord, contre les Kurdes à l'est et contre le groupe État islamique dans le désert central?
Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un plan de réforme des forces armées. Le directeur de l'administration au ministère de la Défense, le général Ahmad Sleiman, a expliqué que l'objectif final est de construire une armée moderne, une armée de métier, dont le gros des effectifs serait composé de volontaires et non plus de conscrits et de réservistes. Le service du drapeau ne sera pas supprimé, mais sa durée sera raccourcie pour permettre un retour plus rapide des appelés à la vie civile. Les étudiants universitaires seraient engagés en tant qu'officiers. L'exemption du service militaire en contrepartie d'une somme équivalente à 8 000 $ est maintenu, mais l'âge des bénéficiaires sera ramené de 40 à 38 ans. L'armée syrienne, qui comptait 300 000 hommes avant la guerre, a perdu la moitié de ses effectifs. L'Observatoire syrien des droits de l'homme estime ses pertes ainsi que celles de ses milices supplétives à 125 000 morts. Des milliers d'autres ont déserté. Pour reconstituer ses rangs, l'armée syrienne a massivement enrôlé conscrits et réservistes, créant un réel problème à dimension sociale et économique.
Paul, un grand nombre de jeunes Syriens ont fui leur pays pour ne pas être enrôlés dans l'armée. Quel est le sort qui les attend ?
Le général Ahmad Sleiman a déclaré que ceux qui ont déserté pour, je cite, « ne pas servir la patrie » seront sanctionnés. Ils risquent de longues peines de prison, voire la mort s'ils sont reconnus coupables de trahison. Les situations de ceux qui n'ont pas rejoint l'armée pour d'autres raisons seront examinées au cas par cas.
Paul Khalife à Beyrouth pour RFI. Merci beaucoup. 8h20 à Paris, au lendemain d'une élection importante en Iran, la présidentielle anticipée après la mort d'Ebrahim Raisi. 4 candidats en lice, dont seulement 3 auront vraiment compté dans ce scrutin. Le président conservateur du Parlement, Mohamed Bagher Ghalibaf, l'ultra-conservateur Saïd Jalili et la surprise de cette campagne, le candidat réformateur Massoud Pezeshkian. Il serait en tête selon des chiffres qui nous parviennent et qui laissent entrevoir un second tour. Notre invité ce matin, bonjour Thierry Coville.
Oui, bonjour.
Chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran, merci d'être avec nous sur RFI pour tenter d'y voir plus clair selon des résultats partiels. Le réformateur Massoud Pezeshkian serait donc en tête à 42%, suivi de près par l'ultra-conservateur Saïd Jalili, qui serait à un peu plus de 40%. Des chiffres à prendre évidemment avec toutes les pincettes nécessaires. Les grandes villes n'ont pas encore été comptées, mais comment les interprétez-vous ?
Oula, vous savez, bon, je suis comme vous, je découvre les chiffres. Bon, je pense que ce qu'on peut déjà dire, c'est que le profil des élections est quand même très différent de 2021. Donc en 2021, il y avait eu quand même, Ebrahim Raisi qui est élu au premier tour.
Avec 50% de participation.
Voilà, avec un taux de participation, alors à l'époque, je crois, même 40, je dirais 49, moins, oui. 48, oui, moins de 50%. Et il n'y avait quasiment pas d'adversaire, donc tout était fait pour qu'il soit élu. Là, on voit que c'est un profil différent, effectivement, avec sans doute une concurrence qui s'annonce au deuxième tour entre un candidat clairement identifié réformateur. Et là, on a quand même deux pôles opposés. D'un autre côté, on n'en a pas parlé, mais moi, la grande question que je pose, c'est le taux de participation. Parce que j'avais tendance à dire ces derniers temps que plus le taux de participation serait élevé, plus ça favorisait plutôt le candidat réformateur.
Alors justement, on a vu d'un côté les appels du régime à une forte participation, la fermeture des bureaux repoussée plusieurs fois jusqu'à minuit hier. De l'autre, voilà, nos chiffres ce matin nous parlent d'une participation très faible, historiquement faible, environ 40%. C'est historique ?
Alors de nouveau, vous me demandez de commenter des chiffres qui arrivent, à la limite que je découvre avec vous, donc... Si c'est ce chiffre-là, c'est un échec. C'est un échec pour la République islamique d'Iran, puisque il faut bien voir le contexte politique. C'est que le contexte politique de la République islamique d'Iran, c'est quand même une crise, à mon avis, de légitimité en interne, qui remonte à loin et qui s'est cristallisée avec les manifestations de 2022. Et ça s'est traduit dans les urnes. Ça, il faut bien comprendre, c'est que une grande partie de la population iranienne, ce qu'en Iran on appelle les couches grises. Celles qui n'aiment pas le système politique, qui veulent la démocratie, qui veulent l'état de droit, mais qui veulent que ça se passe en douceur.
Par les
douceur,
urnes ou...
Enfin, ou qui se passe, qui se passe sans violence et qui ne voient pas trop d'alternatives politiques, etc. Donc, ces gens-là, ils ne sont pas allés voter, puisque les taux de participation, on en parlait déjà en 2021, c'était historiquement faible, taux de participation 48%. Et le taux de participation, je crois, aux dernières élections législatives, c'était, de mémoire, je pensais autour de 40%. Et deuxième tour la région de Téhéran, 7%.
Ouais. Donc le régime, ce sont des messages qu'envoie la population après le mouvement Femmes, Vie, Liberté.
Oui, puis ça remonte à loin, c'est pas nouveau. Il y a une baisse continue de taux de participation, donc une grande partie de la population iranienne dit voilà, je me reconnais plus dans ce système politique. Donc tout ça pour en terminer, c'est pour ça que le régime a autorisé la candidature de Pezeshkian, à mon avis, avec l'objectif de favoriser qu'il y ait un petit peu plus de concurrence et surtout d'enrôler le taux de participation. Donc manifestement, là, on voit que ça n'a pas trop marché.
Ça n'a pas marché, d'autant que le guide suprême Ali Khamenei avait appelé à une forte participation en disant, je le cite, qu'il en allait de la dignité et du crédit de la République islamique. Ce n'était pas un peu dangereux de dire cela, puisqu'on peut dire aujourd'hui qu'avec une participation aussi faible, la dignité, le crédit de la République islamique sont entachés.
Oui, mais si vous voulez, c'est aussi, il faut faire attention parce que il est clair que la République islamique d'Iran repose sur, on va dire, deux piliers. Donc il y a la velléité fari, c'est la supériorité du religieux sur le politique et le rôle du guide qui domine le système politique. Il y a quand même, alors vous restez prudent, en fait, un aspect démocratique et la réplique islamique d'Iran dit, ben regarde, elle organise régulièrement des élections, je sais pas, il y en a eu combien pour le parlement iranien, pour la présidentielle, et les taux de participation, par exemple, quand il y a eu un candidat réformateur en 1997, on avait des taux de participation élevés de 70%. Donc c'est vrai que dans le discours, le narratif de la République islamique d'Iran, ils utilisaient cette participation élevée comme un indice de légitimité. Mais à force de jouer sur cette corde, sans donner les moyens à ceux qui étaient élus de véritablement changer les choses, eh ben, si vous voulez, je pense que c'est une réaction rationnelle de la population qui dit, bah, écoutez, nous, on joue plus à ça. Enfin, une grande partie dit, on joue plus à ça. Et donc, ils sont un peu coincés. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de faire attention. C'est que, il y a quand même d'autres régimes. Je pense que vous connaissez bien ça, RFI, où les taux de participation, c'est, 99%, ouais, etc. On voit rien. Là, les chiffres nous montrent que, et la République islamique d'Iran le voit, il y a un problème.
C'est aussi un désaveu pour le camp réformateur. On a vu des Iraniens dire qu'ils servaient au régime et que voter n'était pas la solution, puisque en fait, vous le disiez vous-même, hein, cette candidature du réformateur était aussi un moyen pour la République islamique d'appeler à plus de participation.
C'est sûr. Bon, alors moi j'écoute. Vous savez, je suis à Paris, j'écoute BBC Persan, j'écoutais deux sons de cloche. Alors il y a les dignitaires comme Mohamed Ratami, l'ancien président, Mohamed Javad Zarif, l'ancien ministre des Affaires étrangères, ils sont clairement rangés dans le camp de Massoud Pezeshkian, qu'on dit, faut aller voter pour on a un candidat réformateur. Donc, du côté des têtes politiques réformatrices, ils ont dit, faut le soutenir. C'est vrai que du côté de la population, on entendait souvent disant, en gros, je vais pas aller voter parce que je veux pas donner de légitimité à ce système politique. Je vais pas aller voter parce que les expériences passées m'ont montré que finalement, réformateurs, conservateurs, Ratami, Rouhani, finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Alors, on peut discuter pourquoi, mais ils ont pas vraiment agi. J'entendais, moi, ça m'a frappé, c'est comme la République islamique d'Iran, c'est comme une camionnette. Il n'y a plus d'essence dans le moteur, il n'y a plus vraiment de fauteuil et le volant est tordu. Donc,
Et de fait, ça changerait quelque chose si Massoud Pezeshkian arrivait au pouvoir?
Alors, on en revient à ce que je voulais dire, c'est que c'est compliqué pour lui parce que dans un tel contexte politique, il a commencé sa campagne en disant tout ce que dit le guide, moi je suivrai les principes du guide. Alors, bon, comme un candidat d'opposition interne, c'est quand même limité. D'un autre côté, par exemple, sur la question de la politique étrangère et des relations avec les États-Unis, il s'est montré quand même favorable à des meilleures relations avec les États-Unis. D'ailleurs, il s'est fait reprendre par le guide à cause de ça. Donc, il a essayé d'introduire une différence. Mais on voit très bien, à mon avis, le contexte politique en Iran est tellement difficile. Il y a une telle perte de confiance, notamment après les manifestations de 2022. C'est que c'est quand même difficile pour les réformateurs, mais de redonner confiance à toute cette classe moyenne. Hein, en Iran, on appelle ça les couches grises qui veulent la démocratie, état de droit, mais qui sont mécontentes de la situation politique.
Alors vous commenciez à le dire, la question des relations avec l'Occident, dans le dossier du nucléaire notamment, on fait partie de la campagne, mais il y a aussi au rang international la guerre au Proche-Orient, dans la bande de Gaza, le danger grandissant d'une guerre au Liban, alors que l'Iran a mené des frappes contre le sol israélien au mois d'avril. Même question, est-ce que aujourd'hui on peut s'attendre à un changement, quel que soit d'ailleurs le vainqueur de cette présidentielle, ou ce sera le statu quo sur ce dossier?
Bon, de toute façon, pour des questions comme la politique régionale de l'Iran et ce qu'ils appellent en Iran le soutien à l'axe de résistance, vous savez, c'est tous les alliés régionaux de l'Iran et dans la lutte contre Israël. C'est le guide et son entourage qui décident. Donc, quel que soit le président, ça va rien changer. Moi, ce que je
a occupé une place dans la campagne?
Non. Non, mais en Iran, c'est implicite. Que on parle pas de ça. Je veux dire que si vous êtes fait de la politique en Iran, vous commencez à remettre en cause l'axe de résistance. À la limite, je sais même pas si vous pouvez continuer à faire de la politique en Iran. Donc on n'en parle pas parce que c'est le domaine réservé du guide. D'ailleurs,
merci.
L'ancien président Hassan Rouhani, il s'est fait très fortement critiquer parce qu'il avait beaucoup plus mis l'accent sur les relations avec les pays occidentaux que là-dessus.
Merci Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran et auteur, je le rappelle, de Iran, une puissance en mouvement. Très bonne journée à vous.
Merci.
Et bientôt 6h30 en temps universel et l'info continue sur la radio du monde, le journal dans une minute. À tout de suite.
Avignon devient capitale mondiale du théâtre à partir du 29 juin. La nouvelle édition du Festival d'Avignon nous invite à chercher les mots ensemble pour dire et habiter ce monde avec 37 spectacles et expositions. Plus de 300 rendez-vous à destination de tous les publics avec cette année l'espagnol comme langue invitée et le chorégraphe Boris Charmatz comme artiste complice. En partenariat avec France Média Monde.
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
Julian Assange a retrouvé la liberté cette semaine à la suite d'un accord passé avec la justice américaine. Je vous propose de revenir sur l'histoire de Wikileaks et la figure de son fondateur, mais aussi de discuter de leur impact sur le droit à l'information. Mon invité, le journaliste Olivier Tesquet, auteur de plusieurs livres sur le sujet. Rendez-vous dimanche à 11h10 TU sur RFI pour l'atelier des médias.